Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Deux soldats des FARDC tués par des jeunes armés la nuit dernière à Ndjapanda, dans le Nord Kivu. Les victimes revenaient de Maïkengo pour ravitailler leurs compagnons d'armes en vivres quand elles sont tombées dans une embuscade, rapporte l'administrateur de Lubero. Affaire tentative de coup d'État manquée le 19 mai à Kinshasa, le révérend pasteur André Bokundoa, président de l'ECC, et l'ancien ministre Omer Egwake contestent l'identité des deux prévenus. C'était à l'audience publique d'hier devant le tribunal militaire siégeant en forêt Nandolo. Selon les deux personnalités, leurs noms sont suyés dans cette affaire par des prévenus qui s'identifient comme leur fils biologique. Maniema, plus de 300 médecins se retrouvent entassés dans les hôpitaux de Kindu et ses environs, laissant ainsi les structures sanitaires de l'intérieur de la province. Pour en parler, nous recevons Dr Charles Omesumbu, président provincial de l'Ordre des médecins du Maniema. Madame, messieurs, bonjour et merci de nous recevoir dans le territoire de Lubero. Nous sommes au Nord Kivu. Ici, deux soldats des FARDC ont été tués par des jeunes armés. C'était la nuit de vendredi à ce samedi à Ndjapanda, une localité du groupement Bassoa située à 76 km à l'ouest de la ville de Butembo. Selon l'administrateur de Lubero, ces soldats revenaient du village de Maïkengo pour ravitailler leurs compagnons d'armes en vivres. C'est alors qu'ils sont tombés dans une embuscade tendue par leurs bourreaux entre Kambaou et Ndjapanda. Récit des faits avec André Kitenge.
C'est aux environs de 22h heure locale que ces soldats à bord d'un camion civil transportant du bois sont tombés dans une embuscade tendue par un groupe de jeunes armés non encore identifiés selon la société civile locale. Ils ont été forcés de descendre du véhicule par les assaillants avant d'être brûlés vifs. Leurs armes ont été emportées par ces jeunes et le véhicule brûlé également par les assaillants. Selon l'administrateur du territoire de Lubero, ces soldats revenaient du village de Maïkengo pour ravitailler leurs compagnons d'armes en vivres. Le colonel Alain Kiwewa condamne cet acte barbare et appelle les jeunes à ne pas s'attaquer aux militaires en cette période de guerre.
Il s'agissait de deux militaires en leur qualité de ravitailleurs. Donc, ils sont partis ravitailler les militaires qui étaient déjà au front. Et dès leur retour, ils se sont dans une embuscade tendue par le jeune, à tous les jeunes de ne plus refaire ce qu'ils ont fait. Ces gens-là ne sont pas nos ennemis. Les forces armées, c'est notre force loyaliste qui combattent pour l'intégrité de notre territoire.
La même source indique que ces jeunes ont tenté d'incendier le sous-commissariat de la police nationale congolaise de Ndjapanda sans succès. Ils ont été dispersés par les éléments de la police. Un calme apparent règne en ce moment, indique des sources de la société civile. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Par ailleurs, le député provincial Bienvenu Kambalé, élu de Butembo, appelle les habitants ainsi que les services de sécurité de Beni et Butembo à plus de vigilance pendant cette période où il s'observe des déplacements massifs des populations vers ces deux villes voisines à cause de l'insécurité. Il rappelle que l'ennemi pourrait profiter de ces mouvements pour infiltrer ces entités supposées encore sécurisées. L'élu de Butembo plaide pour l'identification de tout nouveau déplacé afin de parer à toute éventualité. Le député provincial Bienvenu Kambalé les Lutumbi et Jean par Grévis Salomon.
Seule la vigilance dans ce contexte peut nous aider à épargner des dangers. La population a plus de services de sécurité, devait fournir plus d'efforts à ce jour. Il s'observe des déplacements massifs des populations, des entités qui environnent Butembo, Beni et ailleurs, qui dans ces mouvements de déplacement des populations qui se réalisent à contrôle pour épargner une infiltration qui puisse alourdir le mal. Les FARDC avec leurs partenaires l'UPDF se mobilisent pour protéger la population dans ces zones qui ont été touchées par les affres. Mais de l'autre côté, c'est la population et les services de sécurité qui doivent militer pour sécuriser les endroits encore vivables. Lorsque nos proches se déplacent pour venir trouver refuge chez nous, des prières, les identifier auprès des autorités locales pour permettre à ce que nous puissions suivre le mouvement de tous les déplacés qui sont en train de rejoindre la ville et éviter tout cas d'infiltration. Aussi, la population a vérifié toute information avant de la diffuser parce qu'il y a trop de rumeurs. Cela reviendra à donner de la force à l'ennemi.
Nord-Kivu toujours, nous apprenons que le prix de l'essence est en hausse depuis ce samedi matin dans les villes de Beni et de Butembo. Il est passé de 3300 francs à 4200 francs congolais le litre dans certains points de vente. À la base, la grève des opérateurs économiques à Kasindi-Lubiria, un poste frontalier avec l'Ouganda situé à 90 km de la ville de Beni. André Kitenge nous fait le point.
À Beni, la plupart des stations-services sont restées fermées ce matin. Chez les revendeurs de carburant communément appelés Kadhafi, le même litre se négocie entre 4000 et 4200 francs congolais. Certains responsables des stations-services expliquent cette situation par la carence des produits pétroliers dans la ville à la suite de la grève des opérateurs économiques au poste frontalier de Kasindi-Lubiria par où passent ces produits. Ils protestent contre ce qu'ils qualifient de tentative du gouvernement ougandais de délocaliser le marché de poissons salés de Kasindi vers l'Ouganda voisin. Même des véhicules en transit pour la République démocratique du Congo transportant du poisson salé sont bloqués depuis 2 semaines sur le sol ougandais, indiquent les autorités locales. Ce qui a poussé les opérateurs économiques, les commissionnaires en douane et la société civile à déclencher un mouvement de grève illimité depuis mardi dernier. Toutes les activités d'importation et d'exportation à la frontière congolo-ougandaise sont bloquées. Une situation qui affecte déjà le social de la population. C'est le cas notamment du prix d'une course sa moto qui vient de passer de 1500 francs congolais à 2000 francs congolais, voire 3500 francs congolais sur certains trajets. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Justice, je vous le disais en titre, au procès des présumés assaillants de la tentative du coup d'État manqué le 19 mai à Kinshasa, le révérend pasteur André Bokundo Abolikabe, président de l'Église de Christ au Congo, et l'ancien ministre Omer Egwake contestent l'identité des deux prévenus à l'audience publique de vendredi 14 juin devant le tribunal militaire siégeant en chambre foraine à Ndolo. Ils les accusent d'usurpation des noms. Les deux personnalités se sont constituées partie civile, estimant que leurs noms ont été souillés dans cette affaire de tentative de coup d'État par des prévenus qui se sont fait identifier comme leur fils biologique. Des détails avec Jeff Ngoy Mulonda.
Le tribunal annonce avoir reçu une correspondance des avocats du président de l'Église du Christ au Congo. Il ne se reconnaît pas être le père biologique du prévenu Bokundo Abolikabe. Le révérend pasteur cite ce qui paraît être le vrai nom du prévenu, à savoir Kazadinawej David Trésor. À l'audience d'introduction, Bokundo a dit au juge qu'il était le fils du président de l'SEC. Il est soutenu par ses avocats qui exigent le respect de contrats judiciaires qui les lient dans cette cause. Les juges posent des questions sur sa vraie identité en brandissant un document de l'Académie des Beaux-Arts avec son nom de Kazadi. Je suis né Kazadinawej David Trésor. Je me suis attribué le nom de Bokundoa après avoir appris de ma mère que c'était lui mon père, dépose-t-il. Quant au prévenu Egwake, il affirme que l'ancien ministre Omer Egwake est son père adoptif. Il a grandi chez lui, mais il l'avait déjà quitté depuis longtemps. Selon le conseil du ministre honoraire, le père du prévenu est déjà décédé et s'appelait Egwake Welo. Le tribunal promet donc d'en tirer toutes les conséquences.
Autre nouvelle, susciter la volonté féminine dans la participation politique, tel est le but du forum organisé hier à Kinshasa par le caucus des jeunes du réseau des femmes leaders africaines. Les questions ont tourné autour du genre, de la masculinité positive, mais aussi autour du changement de la mentalité féminine pour son implication dans la politique. Le compte-rendu de Miradi Mfwengi.
L'inclusion de la femme dans la sphère politique est vivement souhaitée. De ce fait, les intervenants dans cette conférence appellent les femmes à s'engager dans des postes décisionnels. Les buts étant de promouvoir la parité, comment améliorer la participation politique féminine? Professeur Germain Kouna, recteur de l'Université Congo, donne quelques pistes.
Il y a le renforcement du leadership féminin. Il faudrait inciter les femmes à aller de l'avant. Il y a aussi l'éducation de la jeune fille, changer aussi certains stéréotypes au niveau de la société. La femme a plusieurs rôles. Elle doit travailler pour une prise de conscience collective. Ensuite, la femme doit travailler sur ses compétences, contribuer pour être actrice de son propre développement.
Mais enfin, qu'est-ce qui explique la faible participation des femmes dans des postes décisionnels? Dorcas Boalelo, présidente du caucus de jeunes du réseau des femmes leaders africaines, explique.
Parmi les causes que nous avons soulevées, nous allons soulever les contextes socioculturels, c'est-à-dire le patriarcat. Beaucoup de gens relèguent encore la place de la femme à la cuisine. C'est vrai à Kinshasa ou dans les grandes villes, il y a des avancées, mais les électeurs ne sont pas qu'à Kinshasa et dans les grandes villes. Le Congo est grand.
Notons enfin que l'implication de femmes permet de mieux prendre en compte leur point de vue. Et cela conduit ainsi à une société engagée.
Par ailleurs, en Ituri, les femmes décident de s'engager dans le processus de désarmement des groupes armés, la résolution des conflits ainsi que le processus de paix dans cette province. Engagement pris à l'issue de l'atelier de 2 jours organisé à Bunia par la division provinciale du genre avec l'appui de ONU Femmes, de l'ambassade de la Norvège et de la MONUSCO. L'objectif est d'intégrer la dimension genre dans toutes les démarches qui visent à rechercher des solutions à la crise sécuritaire qui affecte l'Ituri. Jean-Claude Loki, reportage.
Les participants ont estimé qu'il est urgent de planifier des échanges avec les animateurs du programme PDDCS et ceux de la Commission provinciale de médiation. C'est dans le but de prendre en compte la contribution des femmes dans la réussite de ce programme. Elles souhaitent également organiser des échanges directs avec les responsables des institutions provinciales et ceux des communautés tribales et religieuses. C'est pour présenter le plan d'action des mises en œuvre de la résolution 1325 en Ituri et solliciter leur accompagnement. Certaines participantes souhaitent que des campagnes de sensibilisation soient menées dans des milieux ruraux où la population fait encore face au poids de la coutume, ce qui ne permet pas à la femme d'apporter sa contribution au processus de paix et de développement. Pour sa part, la chef de la section genre de la MONUSCO en Ituri et la conseillère du gouverneur en charge de genre souhaitent que les enseignements reçus soient partagés avec d'autres membres de la communauté. C'est pour que le contenu de la résolution 1325 des Nations Unies soit connu par une large couche de la population. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Nous poursuivons avec notre série de reportages sur les conditions de vie des enfants affectés par les conflits armés en Ituri. Constitués en plusieurs petits groupes, ils passent la nuit depuis plusieurs années dans des chantiers abandonnés ou devant des boutiques. On les retrouve notamment au rond-point Kapa sur la route de l'aéroport de Bunia. Ezekiel Mousalia signe ce reportage.
Il est 20h, un des enfants qui vit dans la rue retrouve son lieu de couchage de fortune après avoir erré et mendié toute la journée à l'instar de ses compagnons. Il tient entre ses mains frêles une petite bouteille de couleur bleue à l'intérieur des substances très toxiques et d'engrais qu'il aspire. Après avoir posé des cartons usés et des vieux habits qui lui servent de matelas, il étend sa moustiquaire et nous explique son calvaire.
Sur la route ici, nous mangeons seulement quand quelqu'un nous a aider. Pas d'endroit où passer la nuit, nous dormons devant les boutiques. Certains de nos collègues n'ont plus de parents. Ils sont déjà décédés, mais ils ne le savent pas.
Certains habitants et parents qui passent par ces endroits où se retrouvent beaucoup de ces enfants se disent affectés par cette situation et en appellent aux autorités.
Nous regrettons de ça, parce que ces enfants n'ont pas étudié et puis ils vont devenir des vauriens. Le gouvernement n'aura pas d'avantage avec ces enfants-là.
Le nombre d'enfants qui vivent surtout au rond-point Kapa se compte par dizaines. Ce lieu est l'un des plus importants de la ville où se regroupent des enfants en situation de rue à Bunia à cause des conflits qui perdurent dans certaines localités de la province. Bunia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Autre nouvelle, notez la clôture hier à Lubumbashi de la 19e édition de la DRC Mining Week ou la semaine minière de la RDC. Au cours de ce forum économique de 3 jours, la question du déficit en énergie électrique pour les miniers a pris une place de choix. Pour Tenke Fungurume Mining, TFM, ce déficit fait perdre beaucoup d'argent aux entreprises minières et à l'État congolais, d'où cet appel lancé par le directeur général adjoint de TFM chargé des relations extérieures. Hugo Siza est au micro de Jean Gandou.
Mais il faut qu'on prenne conscience que chaque jour que nous perdons à produire 1 mégawatt de plus, c'est des millions de dollars que nous perdons. Nous les perdons pour les communautés, nous les perdons pour les pays, nous les perdons pour les sociétés minières. Il faut donc, à un moment donné, que nous puissions avoir une synergie, une dynamique, qu'on mutualise les efforts et qu'on trouve des solutions pour avoir de l'électricité. La Zambie a connu un problème avec les baisses des eaux, la sécheresse. La première décision que la présidence zambienne a eu à prendre, c'était de couper l'exportation d'énergie. Et donc, si nous devons dépendre de l'import de l'énergie, nous dépendons des caprices des autres pays. Il faut donc qu'on encourage les Congolais, qu'on encourage l'initiative privée au Congo et produire de l'énergie. Il est donc important qu'au niveau du gouvernement, qu'on prenne conscience, qu'au niveau du secteur privé, nous, au niveau de la Chambre des mines, nous avons pris conscience et nous allons continuer à faire des réflexions, mais on doit quitter la réflexion vers des actions concrètes. Or, aujourd'hui, nous allons chercher de l'énergie au Mozambique, en Namibie, alors que nous avons Inga qui a la capacité d'électrifier toute l'Afrique. Il faut qu'on prenne conscience. Autant on organise des réflexions sur les mines, sur la sécurité et autres, il faut qu'on ait des états généraux sur l'énergie, mais que ça soit des réflexions, des actions concrètes.
Actualité internationale.
Fin de l'attente pour les Sud-Africains. Cyril Ramaphosa, officiellement réélu par les législateurs, président de l'Afrique du Sud pour un second mandat. Sa réélection intervient grâce à l'accord conclu par son parti, le Congrès national africain. L'ANC a signé en faveur d'une coalition historique avec le principal parti d'opposition et d'autres partis. Cyril Ramaphosa a obtenu ainsi 283 voix contre 44 pour Julius Malema dans cette assemblée de 400 membres.
L'invité.
Nous sommes dans la province du Maniema. Plus de 300 médecins inscrits au tableau de l'ordre des médecins sont entassés dans les hôpitaux de Kindu et ses environs. Ils désertent ainsi les structures sanitaires de l'intérieur de la province. Pour en parler, nous recevons le président provincial de l'ordre des médecins du Maniema, Dr Charles Omesumbu, s'entretient avec Florence Kizalunga.
Docteur Charles Omesumbu, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Aujourd'hui encore, comme chaque année, les médecins prêtent serment et sont inscrits au tableau de l'ordre de médecins. Quelle sera la valeur ajoutée de ces médecins dans les 18 zones de santé du Maniema?
Merci beaucoup, madame la journaliste. C'est vrai, lorsqu'on regarde le nombre des médecins, on peut penser qu'ils sont nombreux, qu'il est même exagéré. Mais lorsqu'on regarde l'affectation, on va se rendre compte que la plupart sont concentrés à Kindu et dans quelques centres urbains. Et il y a des coins où il n'y a pratiquement pas de médecins et où on cherche des gens qui peuvent apporter des soins de qualité. Moi, je pense que l'autorité provinciale peut utiliser ces jeunes médecins et les affecter là où on a besoin d'eux, c'est-à-dire dans des centres de santé de référence de notre province et dans les hôpitaux généraux de référence qui manquent encore du personnel qualifié. Ils sont là, je crois qu'ils peuvent apporter beaucoup dans leur expertise.
Docteur, ils sont maintenant combien les médecins inscrits au tableau de l'ordre de médecins dans la province?
Ok, nous sommes dans la phase de recensement pour voir qui sont réellement inscrits. Mais lorsqu'on se fie aux chiffres que nous avons et qui doivent être vérifiés, nous sommes dans les 300 dans la province du Maniema.
Vous êtes dans les 300 et il y a des structures où on manque même un médecin, comme vous venez de le dire. Où se situe le problème? C'est vous les médecins qui refusez d'aller, d'être affectés à l'intérieur, ou bien les médecins ne reçoivent pas des affectations?
Bon, là c'est un dossier assez complexe. Il faut étudier au cas par cas, mais je crois que la première des choses, c'est d'abord d'affecter. Affecter les gens là où ils doivent aller. La deuxième chose aussi, c'est mettre un minimum de conditions de travail. C'est-à-dire que si le médecin doit se retrouver dans une structure où il n'y a aucune pincée, il n'y a rien du tout, même si sa tête est pleine de matière, il ne saura rien faire. Donc, c'est à étudier au cas par cas. Mais je n'encourage pas que les médecins soient concentrés dans la ville de Kindu et désertent l'intérieur. Non. Je crois que l'autorité doit se pencher. C'est à elle de répondre à cette question. Pourquoi les médecins se retrouvent tous dans la ville de Kindu? Parce que c'est elle qui affecte et je crois qu'elle peut répondre utilement à cette question. Mais je n'encourage pas cela parce que la population souffre à l'intérieur de notre province.
Comme vous parlez de la population, est-ce que la population a accès facile aux médecins là où les médecins sont affectés?
Accès facile, je dirais oui. Je crois que les médecins sont accessibles et la plupart des formations sanitaires, en tout cas, sont dans la politique nationale, qui fait que les médecins devraient être logiquement accessibles. C'est vrai qu'il y a des poches de résistance à gauche, à droite, mais ce sont des choses qui peuvent facilement être réglementées.
Oui, docteur, nous vous avons suivi en demandant aux autorités politico-administratives de tenir compte des médecins inscrits à l'ordre de médecins pour être affectés. Qu'est-ce que vous avez constaté pour lancer ces messages?
Oui, si nous avons pu lancer ces messages, c'est parce qu'il y a eu des dérapages de par le passé. Et vous avez entendu que nous avons dit que nous devons maintenant vérifier la conformité de tous les dossiers des médecins qui prestent dans la province du Maniema. C'est parce que, bon, on a eu vent de ces médecins-là qui seraient en train d'exercer en violation de la loi de notre pays qui stipule que les médecins devraient être préalablement inscrits au tableau de l'ordre des médecins. Voilà pourquoi nous nous disons que l'autorité provincial pouvait nous associer. C'est pas que nous puissions affecter les gens, on n'en a pas vraiment besoin, mais que nous puissions vérifier la conformité de ceux qui sont affectés s'ils répondent aux normes d'être affectés dans les formations sanitaires.
Mais pour qu'il y ait équité, égalité des chances au service des soins entre la population se trouvant à l'intérieur de la province et celle se trouvant au chef-lieu, qu'est-ce que les autorités doivent faire en urgence, docteur?
Aux autorités politico-administratives, nous disons qu'il est facile de transformer une campagne en une ville. C'est possible de mettre de bonnes conditions de travail partout qui seront attrayantes. Aussi, on peut équiper ces formations sanitaires où on va envoyer ces médecins pour qu'ils aient le minimum requis pour soigner, parce que il y a des paquets que l'on demande, que l'on disponibilise cela, que l'on appuie en médicaments essentiels ces formations sanitaires, et je crois que ces médecins se retrouveront dans de bonnes conditions de servir leur communauté. Ça, je me dis que c'est un pari pour l'autorité et même pour toutes les ONG qui ont pour vocation de nous appuyer dans le domaine de la santé.
Docteur Charles Omesumbo, merci.
Merci beaucoup, Madame la journaliste.
Le président provincial de l'Ordre des médecins du Maniema répondait aux questions de Florence Kizalunga. Ainsi prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima à Outa. À la mise en onde, Pierre Diassinois. Merci d'avoir été des nôtres.